R22,
tout le monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Et donc du coup, j'ai l'immense plaisir de présenter notre premier keynote qui prend la forme d'une conversation entre Marilyn Acker et Kartika Nair, ainsi qu'une lecture de leurs textes écrits en collaboration. C'est un échange qui touche sur les thématiques de la traduction et du multilinguisme, de la poésie qui se produit à travers des liens d'amitié et du formalisme comme stratégie dissidente. Le texte qu'elles vont lire au milieu de leur échange est un extrait de l'œuvre collaborative A Different Distance, qui paraîtra prochainement au Milkweed Editions aux États-Unis. Cet extrait est apparu dans le Los Angeles Review of Books sous le titre Ranga Spring 2020. Et donc, je transmettrai le lien dans le chat YouTube et je l'avais déjà mis dans le Frama avec les questions pour cette séance. La conversation a été filmée hier, mais on sera rejoint par Kartika Nair après la diffusion de la vidéo pour répondre aux questions et commentaires. Merci tellement, Kartika. Et donc, Marilyn Acker est auteure de 14 recueils de poèmes en anglais publiés aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont Blazons, 2019, et A Stranger's Mirror, 2015. Trois recueils de ses poèmes sont parus en traduction française, Fleuve et Retour, traduit par Jean Migraine en 1993, La rue palimpseste, traduit par Claire Malroux en 2004, et Tress Dye, divers traducteurs, publié en Algérie en 2018. Elle a reçu le prix international de poésie Argana au Maroc en 2011. Sont également parus aux États-Unis et au Royaume-Uni 18 recueils de ses traductions de poètes français et francophones contemporains, entre elle, Samira Negrouche, Jean-Paul de Dalsden, Vénus Corrigata, Claire Malroux, Emmanuel Moses, Hedy Kadour, Marie-Étienne, Amina Saïd. Sa traduction de King of a Hundred Horsemen de Marie-Étienne a reçu le prix de traduction de poésie du Pen Club américain en 2009. Et Kartika Nair est auteur de plusieurs ouvrages, dont le primé Until the Lions, Echoes from the Mahabharata, Archipelago Books 2019, et Le Tigre de Miel, édition Eliam Actes Sud 2013. Elle est également la principale scénariste de Desh, Choto Desh et Until the Lions, du danseur et chorégraphe Akram Khan. Aussi engagée dans la danse, Nair s'est surtout associée à Sidi Larbi Chiakawi et Damien Jallet, en tant que productrice exécutive d'œuvres comme Three Spells, Babel, Puzzle et Les Médusées, et en tant que cofondatrice de la compagnie Eastman. Donc, merci tellement à Marilyn et à Kartika, et maintenant, on va avoir l'échange.
Je m'appelle Marilyn Acker et je suis ici avec
mon amie et collaboratrice Kartika Nair. Il y a un peu plus qu'un an, j'ai eu l'idée de comme nous avions toutes les deux dans le passé écrit des œuvres poétiques en collaboration avec des autres poètes, qu'on fasse la même chose pendant le confinement qui a commencé en mars 2020. Tout cela a été écrit par email et franchement je peux dire avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui n'est pas passé, c'est-à-dire la solitude inhabituelle de recevoir, d'écrire un poème, même un court poème, et de lancer sur l'Internet et de recevoir un poème en réponse le lendemain ou le surlendemain, parfois le même jour, parfois après 4 jours, pas seulement fait une différence, alléger le confinement, alléger l'anxiété et cette solitude inhabituelle, mais aussi c'était quelque chose que nous avons aimé faire avec dans le passé avec des autres poètes et c'était vraiment une trouvaille de pouvoir le faire ensemble.
Tout d'abord, un très grand merci à toi pour avoir lancé l'idée. C'est vrai que Nous avons dans le passé fait lancé des initiatives ou fait partie des initiatives un peu semblables. Toi, un vrai recueil de Renga qui s'appelle Diasporenga, et moi dans un livre collaboratif de poèmes qui avec Sampona Chatterjee, qui était autour du métro parisien de mon côté et du réseau ferroviaire de Bombay de son côté, mais qui était beaucoup plus en vers libre, qui avait retenu le principe de Renga des lignes qui servaient de lien entre le poème de l'une et de l'autre, mais qui n'avait pas la forme stricte du Renga. Mais rester un an dans le même endroit, dans le même quartier même, était tellement inhabituel, et ces poèmes nous ont permis, je pense, de faire quelque part le témoignage du temps, mais aussi de l'espace, à la fois de nos voisinages immédiats, mais aussi du monde qui entrait et qui sortait par l'Internet, par la presse, par les coups de fil à des proches qui étaient jamais aussi loin, qui n'ont jamais été aussi loin et d'une certaine façon qui n'ont jamais été aussi proches, parce qu'ils sont constamment dans nos pensées par le stress, par l'inquiétude et par la tendresse.
Et il faut peut-être expliquer que le Renga, c'est une forme poétique japonaise syllabique qui est d'habitude écrite en collaboration, parfois parmi plusieurs poètes, et où chaque petit poème qui s'appelle un tanka a une structure syllabique en comptant des syllabes, c'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, puis 7, 7, puis 5. 7, 5, puis 7, 7. Donc, chacun, et parfois nous avons élargi cette forme du tanka pour mettre encore 5, 7, 5, 7, 5, 7, 7. Donc, ce sont parfois des poèmes de l'hiver et parfois des poèmes de 15, mais tout très court. Et peut-être qu'on peut maintenant lire un peu. Crocus primroses in lockdown square Leopold Achille, the plague spring. Rana sent me a photo of police on Hamra Street enforcing curfew. The boy I watched on the roof of the refugee squat was locked down already, daily. Among washing lines, 29th March 2020.
Daily lines burgeon on Louis Blanc pavements, each sprout 5 feet from the next. Human unblossoms outside baker, butcher, grocer's doors. One out for one in, gloved, masked, sanitized, before and after each yield. The pigeons strutting the same sidewalks heed no distancing. 30th March 2020.
Distance between us, she wrote long ago, and then made it permanent. Charpentier, vêpre à la vierge, while I'm doing the dishes, on the comforting old squat black CD player. For a moment, there's connection. If only with that perplexed self desiring. 30th March 2020.
That desire for self to be more than terra firma for virus settlements begets new creeds. Parisians grunt and wheeze praise to Lord jogging while roaming forlorn ourselves as our streets. Romans. Hymn and drum volare from balconies. Jack Bernard downs 10,000, yes, minutes of bones, libation of eyes and wits to fair Agent Booth. The right mantra for Loklak spurs my quest across the net. 31st March 2020.
Across the street, A girl stands lengthily at the window, smoking and looking at empty sidewalks, sun-soaked on April 1st. I wish the tourists would disappear. Now they're gone. Watch what you wish for. In Purda, in quarantine, I dice one more aubergine. 1st April, 2020.
Aubergine once more, braised, buttered, basil and beef fried in any form. The thought invades odorous noons, leaves sharp pug marks on my dreams these still wintry nights. Preschoolers play COVID age tag in our courtyard. Not more than two at a time and catch with an outflung glove. 3rd April, 2020.
We drove out to the place they called Tarantina, where crews of ships from Europe once waited 40 days to be declared plague-free. Desolate still, but in a lonely high-rise, in a vast gallery, the 90-year-old painter's new gouaches, texts, tapestries. Afterward, a huge Armenian lunch in Burj Hamoud with my two young friends, nobody knowing quarantine was just starting. 3rd April, 2020.
Bedlam just started here. N writes from New Delhi's migrant worker camps. How will they lock down millions who have neither doors nor roof? Millions who must walk many moons to reach a home to self-isolate. Prime Minister Modi bids his nation to light candles. President Macron, meanwhile, warned us off face masks unless really ill. Spring, the dearth in my two lands of roses for all the graves. 4th April, 2020.
Rose garden hidden in the Square du Grand Veneur, it's starting to bud, but the gates are locked. Only kids from the logements sociaux in the enclosure peer through the grates in strange, bright April sunlight. Here's a petition against euthanizing the sick old. 5th April, 2020.
Sick and old. For Laure and Serge, teens from Block D, I now tick both boxes. L, 4-inch heels keen across cobblestones, rushes to hold open all our doors. Their mum, though, no longer hails me with nod and smile. Chemo-shorn, browless beings in masks could spell one more germ. 6th April, 2020.
One more spell, one more incantation. It's only the art of the fugue, or Hildegard of Bingen, or Alice Coltrane. Music calms anxiety. Abida Parveen sings a Hafiz Ghazal, cross-legged, eloquent hands. I pick out a word or two. 6th April, 2020.
Two words now for me. Hum dekhenge, we shall see. Iqbal Bano soars skyward on Fez's refrain. And something steelier than hope lights the heart once more. Heart that fluttered last evening, stalled a few instants. A frog in the throat these days hearkens to beasts less winsome. 9th April, 2020.
Ego, clawing beast, with or without our selfhood, beasts try to survive, as does each isolate eye, newly dispensable or in the equation. Lock up these, those forever, then open the doors. I open late windows on unnatural bright April. 10th April, 2020.
Right as this April, Isa, flushed after cycling from Pantin, risking dour fines we none can afford, brings me dorayaki, homemade, with sweet red beans crushed and flour ground by Nico, who'd foraged for weeks. Balm for my bile-deluged gut, swaddling for sleep-deprived dreams. Wajdi Muad writes to his infant, unknowing son, quoi dire de plus urgent que l'amour? Sometimes, pancakes will do just as well. 13th April, 2020.
Pancakes, not huître. Phone calls, texts, instead of wine-flavored exchanges in the public privacy of a cafe. Sautéed snow peas, shallots, chicken, wine anyway, but for one. Yesterday's bread, a departing moon above roof dormers, now my horizon. 14th April, 2020.
My horizon, each week, the poppy-printed teal hair cap of Nurse Rose, hand-stitched the florets for cheer, as she disinfects, secures, in the martial cant so dear to our president, my porticat site. She, of calm hands and raptor gaze, snags any truant wain. 15th April, 2020.
I play truant when I go to the bakery or Russian roulette for a baguette tradition, une réglette de macaron. I should be indoors. Back inside, I'm dizzy with fear, but I eat one, two caramel macaroons. Look, we have come through. Who knows? 15th April, 2020.
Who knows anything today? Prefects, priests, pressmen, physicians, no one. Yet wait, everyone we know, or don't, dons shades of profit. Sun-drenched flowed the Quai de Valmy and the Jamac these last afternoons, while I brooded indoors with Coke as cure and company. 18th April, 2020.
Wolves accompany me, a dream I'd like to have. Lope across a step, howl an ode to the half moon, break bread with Alfarizdak, hunt mice if we must. Overarching the night sky blankets the city we're immured in, or opens it up to ghazals of rain.
Debate.
19th April, 2020.
A rain of ghazals, petrichor from verse, by long-lost poets, crumble many saber-toothed daymares, if just for a rainbow while, Khalib, Fez, Firach, Sahir, always Sahir. Then the Dwayan, Khushro, Sufi, secular, or plain kafir, their ghazal, nazm, and sher, the first to strike my early unlearned ears, demand rebellion, yet earn adoration from a resolute Gnostic heart. 20th April, 2020.
My atheist heart's an impatient physician, has no words to calm vertigos, palpitations, provoked by a sentence in a news brief or just the sameness of spring days that lengthen out of reach. No words then, music, numbers and feeling, metal, thoughts, reeds, oud, violin or saxophone, behind them a mind, hands, a mouth, unseen as a friend's face now. Today, the doctor's Mozart, 21st April, 2020.
My doctor's Bura and Blasi, Amazons with spines of carbon steel, Shaft smart truth and solace fingers the envy of neat goldsmiths. Take the time to write and ring, to inquire and devise relief with bad puns in pandemics covering for painkillers. 23rd April, 2020.
Covering her face with the mask she'll wear all night, my daughter goes to meet the patient first in the queue in the ER. Through nights in Aceh after the tsunami in a hospital tent, she saw herself back in school, saw herself the physician. I imagined her then, now, at a different distance, think of her, unmasking in the morning, driving home to walk the dogs. 23rd April, 2020.
Home with the dogs, 4, and spouse of 5 odd decades, my dad, veteran of 3 wars, child 2 of World War II, famines, a blood-steeped partition, thunders at the virus, the lockdown, the distance from kin, the years of command futile before this covert agent. 24th April, 2020.
Before, I covered my head to enter a mosque. I cover my face now to go down the street. Niqab's forbidden in France, but masks like the ones the Kine gave me will be obligatory. I sent a photo of my solo atheist iftar to Samira in Algiers, to Mariam in London. Next year, will we sit down together to break bread for anyone's feast? 26th April, 2020.
Stale bread, feast for one, gleaning breath from rotting peel and near empty cans of red beans from the garbage bins around the local monop. Streets abandoned by traffic and pedestrians find homes with vagrants. Fed, unsafe, even as the cops slap fines on their unhoused hands. And leaders applaud our statewide lockdown success. Some debts never figure, not even as nameless figures. 28th April, 2020.
Known nameless faces, figures, throw open windows up and down the street each night to applaud doctors, nurses, éboueurs, and to show ourselves to each other at the end of a lockdown day. I wave to the girl in the 5th floor dormer. She waves back. 29th April, 2020.
A 6th floor dormer, a cigarette, the much loved view from our skyline. Claire, critical care intern, size for one, after 20 hours on breathless feet. Evening applause is sweet, but she'd choose PPE over the president's praise and eggs on grocery shelves. 1st May, 2020.
Shelves in the G20 are still filled with coffee, cheese, brown eggs, gariguette, Greek yogurt, milk, wine, but I hurry, forget tomatoes, get out of harm's way, masked, gloved, as fast as I can. Food shopping once was community, communion, poison in the chalice now. 2nd of May, 2020. We were talking a bit on the telephone this morning just because the reading that we were doing when each of us, decades apart, still were 10 years old, 12 years old, 14 years old. And since this is a colloque about women poets, I mean, that it might be interesting to just talk a bit about some of the women poets who went into making us the poets that we are, and perhaps some of the men poets as well, just poets. And not to mention what languages, and because there's divergence and crossing over. Who are some of the poets that made you want to write poems?
Well, you, but that's as an adult, really. Enfant et même jeune adulte, j'ai jamais envisagé être poète, mais ce sont des poètes et des écrivains qui m'ont donné mon sens d'identité, je trouve. Les tout premiers, c'était par expression orale, parce que ma mère me lisait beaucoup de poésie, et il y a aussi des poètes en Malayalam comme Kunjan Nambiar qui ont créé des formes de spectacle vivant. Il a créé quelque chose qui s'appelle l'Ortum Dulal dans le 16e, 17e siècle, qui perdure encore, qui est une forme satirique. C'était un peu un espace de liberté pour critiquer qui que ce soit en pouvoir, les rois, les prêtres. J'ai été extrêmement influencée par cette idée que le verbe était avant tout un moteur de liberté, d'expression de liberté. Et ça a été renforcé par les poètes pré-indépendantistes et post-indépendantistes, que ce soit des très grandes poétesses malayali. Donc Malayalam étant la langue du Kerala, comme Balamaniamma ou Lalithambigam Antarjanam, et la fille de Balamaniamma, Kamala Das, qui est très connue comme poète anglophone, elle était bilingue, elle était magnifiquement bilingue. Même avant que je comprenne leurs œuvres, peut-être, l'idée de ces femmes était primordiale dans la construction d'une soi.
Et est-ce que ta passion et ton intérêt pour le spectacle et pour la danse est venu en même temps que l'intérêt pour la poésie et la littérature?
Je crois qu'elles étaient parallèles, les intérêts, ils étaient parallèles, parce que je ne faisais pas forcément la distinction telle qu'on a aujourd'hui entre disciplines, parce que l'un traversait l'autre, d'autant plus que le cinéma populaire indien, qui se connaît comme Bollywood aujourd'hui, mais qui dans les années 40, 50, 60, et même si je n'étais pas née à cette époque-là, mes parents le regardaient beaucoup, idem, parallèlement au cinéma art et essai du Kerala et le cinéma hindi. Et il y avait une porosité extrêmement intéressante parmi les écrivains, entre les écrivains et les écrivains militantistes notamment, qui étaient idem, qui étaient très importants dans la construction d'une nation postcoloniale, laïque, ça c'est très important, multilingue, multireligieux, et tous ces arts, à la fois traditionnel mais aussi moderne. Donc je pense que littérature et spectacle vivant, et d'une certaine façon le cinéma, mais notamment à travers les poètes paroliers, on fait un amalgame dans le meilleur sens du terme dans ma vie. Et pour toi, Marilyn, qui étaient les poètes les plus importants dans ton enfance et ton adolescence?
Enfin, c'est plutôt la poésie, ce qu'on attend d'une anglophone, et surtout de quelqu'un de ma génération. C'est-à-dire que c'était plutôt en imitant des poètes comme Eliot à l'un côté et Robert Frost à l'autre, mais aussi Gwendolyn Brooks, par exemple, que j'ai découvert assez jeune, que j'ai voulu à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, les imiter. Et après, c'est difficile, sinon impossible pour moi dans ma tête de séparer poète homme et poète et poète femme, parce que disons que si je lisais au même moment Muriel Rukeyser et Jack Spicer, tous les et ça aurait dû être plutôt à l'âge de 15 ans ou l'âge de 16 ans, où j'ai découvert ces deux-là qui sont très difficiles l'un de l'autre. Je n'ai pas fait cette différence dans ma tête, mais c'était surtout le verbe, le poème en tant que poème, parfois la forme du poème. J'étais passionnée de John Donne et je suis toujours passionnée de John Donne. Mais en revanche, il faut dire que la parution en langue anglaise des des livres, des recueils de poètes femmes ou femmes poètes de langue anglaise, et aussi des anthologies de poètes femmes qui a commencé vraiment dans les années 70. Il y avait peut-être quelque chose dans les années 60, mais pour moi c'était dans les années 70 que c'est l'idée, et pas seulement l'idée, mais l'expérience, le drame de découvrir qu'il existait et des poètes des poètes femmes, je veux dire, que je connaissais déjà et que j'admirais, comme Muriel Rukeyser, comme Adrienne Rich, comme Gwendolyn Brooks, mais aussi beaucoup d'autres du 18e, 19e, voire 20e siècle, dont je n'ai jamais entendu parler, m'a pas seulement ému, mais m'a montré un chemin que je devrais écrire dans la même manière que Adrienne Rich ou Audre Lorde ou Muriel Rukeyser ou Gwendolyn Brooks, bien que en tant que jeune poète, j'imitais, c'est nécessaire d'imiter, mais quand même l'idée d'être poète et d'être femme était tout à fait possible et quelque chose que dont je pourrais penser. Il n'y a pas, à ma connaissance, au moins maintenant peut-être on a accès à des textes de poètes femmes en anglais, en français également, du 15e, du 16e, du 17e, 18e siècle, mais dans les années 70, c'était quelque chose qui paraissait qui est devenu présente et donc lisible en forme d'anthologie ou en forme de livre réédité ou en forme de biographie ou essai critique, où avant il n'avait presque rien. Je m'en souviens de ma grande bonheur dans un cours du français médiéval de découvrir l'œuvre de Marie de France dont je n'avais jamais entendu parler avant. Mais il faut que je dise aussi une grande influence était j'avais la grande chance de faire la connaissance d'une poète qui avait une bonne vingtaine d'années, ou un peu plus de plus que moi, vivante, la poète Marie François, qui maintenant, heureusement, on peut lire, mais elle était à cette époque, même à 37 ans, 40 ans, presque inconnue, bien qu'elle avait beaucoup écrit. Et je peux dire que entre elle et moi, pendant des décennies, il y avait une sorte de dialogue, pas une sorte de dialogue. J'ai écrit des poèmes qui lui étaient dédiés et vice-versa. Elle est... Elle est décédée il y a un an, à 97 ou 98 ans, mais c'est toujours une grande présence dans ma tête, dans mon âme.
Est-ce que tu savais toujours que la poésie serait ta première expression littéraire? Déjà jeune, tu avais la poésie en toi comme une première langue?
Il me semble, oui. Papa, il me semble, oui. C'est-à-dire que, comme toute adolescente, j'ai écrit quelques nouvelles, mais je revenais toujours à la poésie quand je voudrais, entre guillemets, m'exprimer, ou parce qu'il y avait une forme poétique que j'ai lue. Oh, tiens, une Sextine, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était chez Auden, qui aussi était un de mes maîtres, que j'ai découvert la Sextine. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'essayer. Donc, la poésie, c'était pas toujours question de m'exprimer, avoir quelque chose chose à dire, mais de jouer avec la langue et pour moi les formes poétiques étaient ma manière préférée d'entrer dans la langue, de jouer avec la langue, de faire la cuisine avec la langue.
Je trouve ça super encourageant parce que quand j'ai commencé à écrire la poésie très tardivement, je crois que j'avais 34 ans, toi, Agha Shahid Ali, vous étiez les quelques références primaires pour justement la poésie formelle, parce qu'on est dans une époque où, même si ça se pratique, tous les poètes n'écrivent pas des sestines ou des canzones. Voilà. Vous étiez mes premières références. Jeet aussi, Jeet Tail, le très grand poète indien. Donc c'était rassurant quelque part de trouver des expressions extrêmement contemporaines de ces formes anciennes parfois par des centaines d'années ou voire un millénaire. Donc un grand 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 merci pour cela aussi, parce que c'est de toi que j'ai appris à écrire le glossa par exemple, qui est une forme que j'adore
et j'oublie que j'ai trouvé moi-même il me semble, chez une poète canadienne, P.K. Page, qui est décédée maintenant, mais qui aurait, si elle était vivante maintenant, elle serait plus que centenaire, mais qui a écrit tout un recueil ou tout de glossa, et en parlant de poètes femmes un peu oubliées pas et qui ne devraient pas être oubliées. Et pour le Ghazal, comme tu sais très bien, j'ai échangé des Ghazals avec Mimi Khalvati. J'ai la chance d'avoir de tels amis comme Mimi Khalvati, comme toi-même, qui partagent justement cet intérêt pour ce qui est pas seulement l'art mais le jeu, le jeu de langue qui pour moi devrait exister dans tout poème, quelque soit sa forme.
Et un immense merci à Marlene Hacker et Kartika Nayur pour cette conversation. Je suis tellement émue et contente de commencer avec une collaboration. Et donc, du coup, on est un peu vers le fin de notre temps, mais on a la chance d'avoir Kartika Nayur qui est ici avec nous. Donc, bonjour Kartika. Et je voulais voir s'il y avait des questions. Donc, on a le temps peut-être pour une question. S'il y en a parmi nous, j'ouvre juste un petit moment au cas où j'ai raté. Dans les différentes espaces ouverts qu'on a. Mais pour moi, la grande question ou la partie qui m'a beaucoup saisie de cette conversation, c'est cette partie, Kartika, autour du formalisme qui, qu'on peut imaginer comme quelque chose avec une histoire peut-être excluant et une histoire qu'avec Marilyn, vous réinterrogez. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus.
C'est un peu, ce serait tout d'abord grand merci à vous tous de cette invitation et Claire surtout pour toute l'organisation impeccable hier de cet exercice compliqué d'enregistrement et en simultané. Mais oui, comme je disais dans mon échange avec Marilyn, c'était un énorme bonheur de découvrir cette multitude de formes que des poètes comme elle, notamment le feu Aha Shahid Ali, aussi Jeet Tale, George Curtis, qu'il y a un certain nombre de poètes qui, même aujourd'hui, puisent dans cet énorme héritage de formes et de formalisme multiples. Donc, chez Marilyn, par exemple, une des choses que j'ai appris au moment où je m'intéressais sérieusement à la poésie et commençais à écrire, c'était justement les multiples cultures vers lesquelles elle s'oriente dans sa recherche et dans la découverte des formes. Il y a un ensemble qui vont du roubaï au ghazal qu'elle déploie magnifiquement, au glossa espagnol, canzone italien, ou quelque chose comme le tanka qui est le composant intégrant de notre livre de Ranga. Donc du Japon au Malaisie, avec le pantoum, à toute l'immensité de l'espace que le ghazal couvre, à des formes plus reconnues comme européennes, comme la Sistine ou le sonnet. Et chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est ce que ces formes permettent d'explorer et de souligner en termes de diapason émotionnel. Ou dans mon cas avec Until the Lions, qui est surtout un livre en poésie, la réécriture du Mahabharata, c'était la possibilité d'exprimer aussi ou à mettre en exergue la diversité aussi de caractères, de personnages, parce que c'est un livre qui essaye de parler dans la voix de 19 personnages extrêmement marginaux, des femmes, des Dalits, des soldats, même des animaux. La forme était, comme disait Marilyn, à la fois le jeu, le bonheur de tenter d'habiter ces différents espaces, mais pour moi, c'était aussi une grande alliée dans l'habitation du multiple.
Merci beaucoup, Kartika. Et j'ai vu qu'il y a une question, peut-être, qui est dans le chat de Camille Blumfeld, qui sera peut-être la dernière question avant qu'on passe à Delphine Naudier pour le prochain panel. Elle a écrit « Merci pour ce très beau texte sur le Renga. Aviez-vous connaissance du livre Renga de Jacques Roubaud, Charles Tomlinson, Eduardo Sanguinetti, Octavio Paz ?» Donc, c'est une question, j'imagine, de référence. C'est que vous venez, Kartika, de parler d'autres références aussi. Mais je ne sais pas si vous avez une réponse directe à cette question-là. Je peux le mettre dans le chat.
Pardon. Certains ont, oui, mais au longueur de livre, effectivement, il y a aussi le livre épatante de Marilyn elle-même et de Dimash Abhi qui s'appelle Diasporanga, qui était édité, je crois, en 2014 chez Holland Park Press. Donc, c'était un des premiers ouvrages que j'avais lu parce que le Renga est souvent un jeu, c'est souvent en simultané et effectivement il y a comme elle a dit chez Octavio Paz, etc. Mais de voir quelque chose d'extrêmement contemporain, c'était encore chez Marilyn que je l'ai trouvé à longueur de livre, je veux dire.
Oui, tout à fait. Et juste pour rappel, le texte qui a été lu, c'est ça a apparu chez le Los Angeles Review of Books, donc le lien était sur le YouTube et dans nos chats. Donc, j'encourage tout le monde à aller regarder le texte. Et le texte plus grand va apparaître, comme j'ai dit, prochainement au Milkweed Editions. Donc, merci tellement Kartika Nahir et à Merlin Hacker, qui est malheureusement pas là actuellement. Et avec ça, on va passer au prochain panel. Merci à tout le monde. Donc, je passe alors la parole à Delphine Naudier. Merci beaucoup, Kartika.
Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.